Le 7 juillet, après un exercice nocturne, le régiment en poste à Phong Thai perd un soldat. L'armée chinoise refuse de nous laisser fouiller la ville de Wang Ping. Les deux troupes échangent les premiers coups de feu. Le 8 juillet, un second affrontement éclate autour du pont de la vallée des Roseaux. Le 9 juillet, l'état-major donne l'ordre aux divers régiments en garnison sur la plaine de Pékin de se préparer au combat. À Tokyo, face à la pression internationale, le gouvernement opte pour le profil bas. Il ne faut pas aggraver la situation. Le problème doit être réglé sur place. L'état-major propose un cessez-le-feu sous quatre conditions. Que les Chinois retirent leur garnison autour du pont de la vallée des Roseaux, qu'ils assurent la sécurité de nos hommes, qu'ils livrent les terroristes, qu'ils présentent des excuses. Les Chinois rejettent tout en bloc. Le 10 juillet, des bataillons de Chiang Kai-shek se déplacent en direction de Pékin. Les premiers renforts de nos régiments mandchous franchissent la Grande Muraille. Le 11 juillet, le gouvernement de Tokyo cède enfin devant l'urgence de la situation. Il décide d'envoyer en renfort nos bataillons de Corée. Des vrombissements font trembler la terre. La première escadrille de bombardiers se dirige vers la Chine intérieure. À ses flancs, nous distinguons avec fierté notre drapeau. Un soleil pourpre sur une neige immaculée. Des cris s'élèvent. À Pékin ! À Pékin ! Immense chapeau sur la tête, robe scintillant au gré d'un déhanchement nonchalant, une femme avance. Je n'ai pas le temps de me demander qui elle est. Elle s'assoit en face de moi, tout essoufflée. Le soleil, à travers les mailles du chapeau, voile son visage d'une expression mystérieuse. Un claquement sec. La gamine vient de jouer. Sa main demeure un instant sur le damier. Ses ongles sont propres et peints en orange. J'écoute toujours le choc des pions. Il trahit la pensée de l'adversaire. Au début de notre rencontre, la Chinoise frappait le damier avec un bruit joyeux. Puis la percussion devenue sourde me communiquait les humeurs moroses de la joueuse. Aujourd'hui, le son a été bref et cristallin. Elle a retrouvé sa confiance et sa vitalité. En effet, elle a mené une contre-attaque très originale. Pendant qu'elle se promène dans le bois, je réfléchis au jeu selon une méthode particulière. Au-delà de 100 coups échangés, je m'abstiens de calculer et contemple le damier comme un peintre son tableau inachevé. Au go, seule la perfection esthétique conduit à la victoire. La Chinoise revient. Lorsqu'elle s'assoit, l'ombre de son chapeau caresse ma poitrine. Il m'est impossible de deviner pourquoi elle se déguise en adulte. J'ignore son nom, son âge, son quotidien. Des bourdonnements interrompent ma rêverie. Nos avions, bombes fixées sous leurs ailes d'acier, passent par-delà nos têtes. Du coin de l'œil, j'observe mon adversaire. Elle garde les yeux baissés. Il est plus facile pour mes camarades de survoler la Chine que pour moi de pénétrer la pensée de la joueuse de go.